Voix Nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Ariel Dombal. Ce soir, l'amour de Mana et le théâtre adoré au fond du jardin.
Nous vous avons quitté hier soir, Ariel Dombal, petite fille blonde, gringuita, jouant en pieds nus avec les enfants du quartier à Mexico. Une petite étrangère presque honteuse de son statut d'enfant privilégié, qui demande au chauffeur la conduisant chaque matin à l'école de l'arrêter deux blocs avant pour ne pas en rajouter. Une petite fille enfin dont la joyeuse insouciance doit faire face très tôt, dans ce pays soumis au tremblement de terre, à un séisme d'ordre beaucoup plus intime, la perte d'une mère. C'est votre grand-mère maternelle, l'écrivain et poétesse Mana Garo-Dombal, qui vous prend d'abord sous son aile dans le midi de la France et vous aide à vous reconstruire. Puis, de retour à Mexico dans une famille recomposée, vous vous découvrez une sœur, en même temps qu'une complice de jeu, sur la scène d'un premier théâtre bricolé au fond du jardin et portant fièrement ces mots peints en or, le théâtre adoré. Bonsoir Ariel Dombal.
Bonsoir.
J'aimerais d'abord que vous me parliez de votre grand-mère, Mana Garo-Dombal, dont vous dites « Tout ce qui est bien en moi, je lui dois ».
Oui. Ça me donne envie de pleurer, rien que de l'évoquer. Ce personnage tellement accompli, tellement extraordinaire. Et je n'arrive pas à m'habituer à sa disparition. Mais bon, c'est le lot de tout le monde. Un jour, il faut s'habituer aux disparitions des êtres qu'on adore. Et voilà. Mais elle est morte à 102 ans, cette adorable abuelita, qui a continué à faire une promenade tous les jours et qui était comme une sorte de petite anagra, la tête haute, petite figure merveilleuse, qui laissait des traces très légères sur le sable dans ses promenades et qui a été un modèle absolu pour moi. Et oui, je peux dire peut-être que je suis devenue sa mère à un moment donné, comme tous les enfants du monde deviennent les parents. Et je me suis occupée d'elle avec tellement d'amour. Et elle, c'est elle qui m'a faite. Elle a sculpté mon destin en essayant de me faire me révéler à moi-même dans la liberté, dans la poésie, qui est quand même ce qu'il faut mettre au poste de commande de toute la vie, l'amour, la poésie. Et elle a été une figure, d'une certaine manière, aussi sacrifiée, parce qu'elle était tellement bien élevée, et elle a mis au poste de commande de sa vie sa carrière diplomatique. Elle était la femme de l'ambassadeur, donc ça voulait dire changer 20 fois de pays, construire 27 jardins quand même. Et cette grande poétesse qui a commencé à écrire à l'âge de 15 ans des poèmes étonnants est devenue plutôt une épistolière. Elle a eu beaucoup d'amis à qui elle écrivait de longues lettres.
Elle a traduit, nous le disions hier, Tagore, mais aussi Ray Bradbury.
C'est elle qui a traduit Fahrenheit 451. Elle a rencontré Ray au Mexique. Et il faisait de l'autostop et elle était avec sa voiture de diplomate. Et elle l'a pris en stop. Et ils sont devenus 60 ans d'amitié et d'une correspondance intense. Et donc, moi aussi, j'ai bien connu donc Ray Bradbury.
Et c'est un roman qui a été adapté au cinéma.
Oui, par Truffaut. Oui, c'est ça. Fahrenheit 451, oui. Et
un roman particulièrement visionnaire, oui, qui décrit une société où des pompiers d'un nouveau genre ont pour mission de circonscrire les foyers subversifs alimentés par la littérature et la poésie et de brûler tous les livres.
Oui, en effet, si on veut enlever l'âme des gens, les décérébrer et qu'ils ne soient plus rien, alors on commence par détruire la parole, les livres, la littérature. Parce que nous sommes faits de ça, nous sommes construits, forgés. C'est notre sang, c'est notre âme. C'est ce qui nous permet de regarder. La nature ne fait que copier les artistes.
C'est très joli.
Mm-hmm.
Ça plairait à Oscar Wilde.
C'est de l'Oscar Wilde, mais mieux dit par Oscar Wilde, moi. J'ai dénaturé. Mais j'aime beaucoup Oscar Wilde, hein, qui disait par exemple, « Oui, on ne peut plus maintenant admirer un coucher de soleil, c'est impossible. Ou alors on est vraiment un pauvre provincial. Après Turner, c'est fini, ça ne va plus. On ne peut plus rien dire sur les couchers de soleil. »
En effet, c'est un texte magnifique qu'on peut trouver dans Le déclin du mensonge d'Oscar Wilde.
Ah oui.
Texte que j'aime particulièrement.
Ah oui, oui, moi aussi.
Qui me touche beaucoup.
Ah, j'ai toujours été touchée par Wilde parce que ce dandysme, Cette apparence de frivolité et du style cache un cœur tellement vulnérable, tellement de souffrance. Et puis aussi, ça a été, comment dire, vraiment le premier grand coming out homosexuel.
C'est vrai.
Oui.
Des profondices.
Oui, et il en a payé un prix très fort. Avec toute cette fin de vie en banni, sans un sou, moqué, vilipendé, méprisé.
Vous n'avez peut-être pas rencontré Oscar Wilde, mais par votre grand-mère, femme de l'ambassadeur de France au Mexique, vous avez eu la chance de côtoyer, dès votre enfance, des gens extraordinaires. Tout ce que compte le monde des arts en Amérique du Sud, vous l'évoquiez un petit peu hier, Carlos Fuentes, par exemple, Gabriel García Márquez,
oui,
et d'autres.
Octavio Paz et aussi des figures étonnantes. Remedios Varo, la surréaliste qui a été donc Maria Max Ernst. Et puis Rudolf Palen, un peintre étonnant aussi, ami de Breton et qui s'est suicidé en plein désert. Et puis Tamara de Lampica, la grande prêtresse du cubisme qui habitait toujours chez nous. Et puis Rufino Tamayo, qu'elle a quand même découvert. Il était un Indien del Monte, et elle lui a organisé sa première exposition à Paris. Esaú Uki, ça plus tardivement, elle a aussi été une amie de Zhao quand il était tout jeune chinois débarquant en France avec ses dessins.
Mais je me posais la question, Ariel Dombal, n'était-ce pas parfois écrasant, inhibant pour la très jeune fille que vous étiez, d'évoluer au milieu de ces figures aussi prestigieuses que...
Oui.
Qu'inaccessibles peut-être.
Oui, oui, oui. Je me rappelle qu'en tant qu'enfant, j'étais éblouie par les adultes et je me disais, mais c'est incroyable de devenir adulte parce qu'on devient complètement fou. Je me disais, c'est insensé. Et j'avais une grande, grande admiration. Je sais que Tamara de Lampica me faisait peur parce qu'elle avait en plus cette espèce de panache de grande dame et elle me disait toujours, mais écoutez, vous, plus de simplicité, toutes ces petites fioritures, etc., il faut enlever. One solid color. Il fallait s'habiller d'une seule couleur, de manière stylée, et non pas essayer de mettre des petits cols ou des je ne sais pas quoi, ou des coiffures. Elle me disait ça. Moi, ça me terrifiait parce qu'en effet, je mettais des petites robes en velours bleu et pensant que c'était ce qu'il y avait de plus extraordinaire. Et puis j'adorais, enfin, tout le côté girly, quoi. Mais en même temps, j'adorais ces grands personnages. J'adorais. J'avais aussi un peintre merveilleux, contemporain, André Barbier. J'aime le citer parce que c'est parmi les très grands peintres. Monet, c'est la lumière. Et Barbier, c'est l'ombre, alors que c'est aussi beau. Et ça m'a appris très vite aussi que les artistes, il y en a peu qui accèdent à la lumière. Et voilà.
Il était aussi un ami de votre
grand-mère. De ma grand-mère. Et puis le fils de Claude Monet, à un moment donné, a demandé à ma grand-mère, je vous en prie, faites que vos amis riches achètent l'étoile de mon père, parce qu'on est tellement pauvres. Ma grand-mère a fait acheter à tous ses amis des Claude Monet. Voilà. Comment est la vie des artistes? On ne soupçonne même pas.
J'ai l'impression qu'on pourrait dire d'elle qu'elle était une sorte de Gertrude Stein, finalement.
Oui, d'une certaine manière, elle était... parce qu'il y avait cette générosité, cette attention à l'être qui était en face d'elle, et les artistes l'adoraient.
Féministe, elle aussi?
Oui, parce qu'elle était, par exemple, une grande amie de Louise Weiss, qui a été quand même, grâce à Louise Weiss, nous, les femmes, avons le droit de vote, et c'est assez récent.
Vous avez vécu avec votre grand-mère durant une année dans le midi de la France, près de Grasse.
Oui.
Je crois que c'est elle qui vous inscrit d'abord à un cours de danse. elle encore qui valorise votre voix et vous invite à la travailler. On peut dire, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, qu'elle a été pour vous une inspiratrice, mais aussi un révélateur finalement.
Voilà, un révélateur, c'est primordial. Si on n'a pas ça, on se noie.
Vous et votre frère avez reçu chaque jour, entre 9 et 14 ans, une lettre de sa main sous la forme d'un conte. Que racontait-il ce conte ?
Oh, c'était une merveille parce que c'était un très shakespearien. Moi-même, je m'appelle Ariel à cause du petit génie de l'esprit du vent dans The Tempest de Shakespeare. Et ça, c'était... elle écrivait le conte de Titania et Oberon. C'était un petit prince des forêts et Titania, une petite reine des fées à qui il arrivait des tas d'aventures. Donc, on apprenait notre vie future, enfin, dans le conte de Titania et Oberon.
Mais c'est le songe d'une nuit d'été.
Oui,
c'est ça. Personnages
c'est
du
ça.
Songe.
Ce sont les personnages du songe. Et donc, c'était merveilleux de se projeter dans des mondes, dans de la fiction, et d'attendre que cela se réalise. Et puisqu'elle l'écrivait, c'est que ça arriverait un jour.
Vous parliez de ces poèmes de jeunesse, et je crois qu'un recueil est paru dans les années 80 à votre initiative, Ariel Dombasle, de ces poèmes qu'elle avait elle-même oubliés et que vous avez eu envie de faire partager.
C'est ça, elle avait cette discrétion que qu'ont souvent les... Enfin, tous les artistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur œuvre reste dissimulée, celle qui n'est pas allée dans la lumière, et ils sont presque gênés, ils minimisent ce qu'ils ont fait, alors que c'est sublime pour moi. C'est vraiment beau comme du Victor Hugo, comme c'est extraordinaire. Et c'est vraiment dans la lignée du grand romantisme, mais merveilleusement écrit. Et c'est drôle parce que dernièrement, on a passé un séjour comme ça au Maroc avec Michel Houellebecq. Et Michel Houellebecq a découvert dans la bibliothèque les poèmes de ma grand-mère et il m'a dit mais c'est très beau, c'est très beau. Et alors il lisait ces poèmes qu'il admirait et moi j'étais toute gênée et finalement, ça me faisait plaisir, comme ça, que tout à coup, un écrivain qui incarne vraiment, qui s'inscrit tellement dans le 21e siècle, avec tellement de clairvoyance, trouve que ses poèmes sont admirables et les lise à haute voix. Ça m'a fait plaisir. Et donc, c'est vrai que moi, quand je les ai découverts, j'ai voulu les faire un petit recueil et que ça soit publié par
Michel
Stock.
Houellebecq n'est pas là ce soir, alors j'ai envie de vous demander d'en lire un
oui.
que j'ai choisi. Pour vous.
Oui. Alors ça, c'est un poème sur la lune. Grand lys abandonné du jardin de minuit, masque mystérieux du théâtre des nuits, ô conque voyageant sur l'océan des astres, lune, ô bol des dieux et funèbre piastre qu'au juge des enfers présente le jour mort, lune, galère en deuil qui recherche le port, coquillage échoué sur les célestes grèves, lune, porte d'argent de la maison du rêve, lune, palais désert, blanche nécropolis, sarcophage portant la dépouille d'Isis, lune, morte divine au beau front funéraire, monde pétrifié sans ensemencement, labyrinthe où se perd l'âme en songe vêtu, œil ouvert de cyclope, orbite de statue, vestale qu'endeuilla le virginal serment, ô lune, sein neigeux, émergeant de ses voiles, perle blanche, fermant le collier des étoiles, cymbale suspendu et flamboyant sequin, lune, gâteau mortel d'un nocturne festin. Voici sous tes rayons faiblir les nerfs des roses, les ifs se figer en d'adoratrices poses, frissonner les cheveux riverains des roseaux. Et moi, qui recueillis l'âme de Salammbô, mon cœur tel un serpent des nuits orientales, que fascine le chant du charmeur de Crotale, se dresse vers ton blanc regard magnétiseur, Tanite, ô mon amante, ô ma reine, ma sœur.
J'aimerais que nous parlions à présent du théâtre adoré, celui que vous avez créé avec la fille de la seconde épouse de votre père, votre sœur de cœur donc, qui avait à peu près, il me semble, le même âge que vous.
Elle était un peu plus âgée, mais elle était surtout élevée de manière, alors vraiment, la vieille France protocolaire, les Lubersac, qui ont même un village, alors non. Et elle aussi a été dans les torrents du bouleversement de la mort de son père, juste après que sa mère ait épousé mon père. Et puis, vous savez, toutes ces familles récomposées, et maintenant, Dieu sait que c'est le lot de la moitié de la planète, puisque les gens divorcent, et c'est extraordinairement complexe. Et très souvent, il y a des drames effrayants, parce que ce n'est pas si simple comme ça. De tout à coup, l'impératif de bonheur avec une famille recomposée, ça se passe généralement pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'adorer cette demi-sœur qui est morte tragiquement il y a assez peu de temps. Et elle a été pour moi un compagnon étonnant. Et on a fait les 400 coups au Mexique dans notre adolescence ensemble. Et elle est devenue, le Mexique l'a aussi frappée, elle est devenue extrêmement gauchiste. Mais de la belle manière, elle a hérité de beaucoup d'argent, elle a distribué tout son argent aux pauvres, elle a vécu dans les livres et dans la vérité. Et elle en est morte.
Était-elle secrètement révolutionnaire ?
Ah oui, vraiment.
Et comment se positionnait-elle par rapport à cette famille, la vôtre, la sienne ?
Eh bien, dans l'adolescence, dans une grande révolte, mais dans le refuge, et heureusement, elle dessinait, elle pouvait à travers ses dessins, un peu des dessins satiriques, un peu comme les dessins de Charlie, exprimer la violence de son ressentiment. Et puis, elle était une grande lectrice. Et puis après, elle ne faisait que ça, accompagnée peut-être de l'ami pernicieux qu'est l'alcool. L'ami délicieux et fatal.
Mais lisait-elle des livres qui avaient quelque chose à voir avec l'éveil d'une conscience politique ?
Oh oui, bien sûr, oui. Elle adorait Paul Nizan, elle adorait la poésie, elle aimait la littérature engagée, oui. Ouais.
Mais revenons à ce théâtre adoré que vous avez partagé toutes les deux. Je crois que nous n'avons pas entendu son prénom.
Anne-Victoire de Lubersac.
Anne-Victoire. Mm-hmm. Est-ce que votre désir de devenir actrice, Arielle Dombasle, remonte précisément à cette période, c'est-à-dire la fin de l'enfance, le début de l'adolescence ?
C'est même antérieur. J'ai commencé par être un bébé et tout de suite, je me suis intéressée notamment à tout ce que je voyais dans les processions. C'est-à-dire, on rejouait la conquête du Mexique en se déguisant. Et ça m'a semblé la chose la plus étonnante, pouvoir être quelqu'un d'autre que soi-même, entrer dans des habits de légende, de l'histoire, et vivre, et exprimer. La vie, c'est l'expression. Et donc, c'est par l'expression qu'on nourrit les sentiments. Et donc, l'idée de devenir actrice a fait que j'ai pu entrer dans la vie d'un nombre considérable de femmes et de les incarner. Et c'est un vertige et c'est étonnant. Et j'ai toujours, dans ma carrière, essayé de m'étonner moi-même en disant oui à des choses qui m'étaient extraordinairement hétérogènes. Donc j'ai joué dans des comédies stupide, j'ai fait des films d'action, j'ai joué des sorcières, des gens qui meurent, des aventurières, un spectre très très large de femmes.
Mais à cette époque, avec Anne-Victoire, que
jouiez-vous ? Avec Anne-Victoire, alors non. Alors à l'époque, c'était surtout, on dansait du French Cancan, Et
la vie parisienne.
La vie parisienne que j'adorais. Et c'était très musical. Et aussi des petites pièces de Feydeau et de Courteline que m'envoyait ma grand-mère.
Mais je crois savoir que parmi les invités qui assistent à vos spectacles, il y a des amis de la famille, il n'y a pas n'importe lesquels. C'est très VIP cette histoire. Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Alejandro Jodorowsky,
oui,
qui était, c'est... je crois, le voisin de vos parents à Mexico.
Oui, oui, c'est vrai, oui, oui.
Et dans le film duquel, d'ailleurs, vous apparaissez avec votre sœur à l'époque.
Oui, c'est ça. Enfin, on avait 14 ans et au lieu d'aller à l'école, on est allé sur le film de Jodorowsky, ce qui était totalement interdit. Jodorowsky faisait la une des journaux comme quelqu'un d'extraordinairement corrosif. C'était le théâtre de la cruauté, de la panique. Et d'ailleurs, j'ai été traumatisée sur le film, en ne passant qu'un seul jour. Mais il adorait les monstres, donc il y avait des gens sans jambes, il y avait toute une population terrible de monstres. Et voilà, mais en effet, on est apparu en tant que petites infirmières, des extras comme ça.
C'était une silhouette, quelque chose comme ça.
Oui. En plus, on était masqués parce qu'il ne fallait pas que les parents comprennent qu'on était sur le film au lieu d'être à l'école.
Je crois que Carlos Fuentes assistait à ces spectacles aussi. Et oui. J'ai repéré, je le recherche, oui. Un texte de Fuentes que j'avais envie de vous lire. Il est très, très court.
Oui.
Je voulais avoir votre réaction sur ce texte.
Oui.
Voilà ce qu'il dit. C'est paru dans un article en 1990. La conquête espagnole a été terrible. Ça a été une catastrophe pour le monde indien. Mais une catastrophe n'est catastrophique que si elle est stérile, si rien n'en est. Or, de cette catastrophe, quelque chose est né, et ce quelque chose, c'est nous. C'est la poésie de Sœur Juana Inés de la Cruz, que nous entendions hier. C'est le grand art baroque du Pérou et du Mexique. C'est une façon de parler, de s'habiller, de manger, de bouger, d'aimer, d'imaginer. Il y a toute une culture qui, 50 ans à peine après la conquête, était déjà là, et cette culture est la nôtre. Je me méfie de tous ceux qui idéalisent le monde indien ou se polarisent exclusivement sur lui. Une réaction peut-être, Ariel Dombal. Qu'en pensez-vous?
C'est extraordinairement intelligent, comme Carlos, grand observateur, La Región Más Transparente, c'est fondateur comme livre. Oui, pour l'Amérique latine, c'est intéressant parce que c'est une ode au métissage, justement, et non pas cette idéologie idéaliste et mensongère de la pureté des races et que les Indiens sont mieux s'ils sont des Indiens purs, etc. Au Mexique, c'est très complexe parce que l'Indien était tellement en bas, le plus misérable des misérables et tellement désavoué que, voilà, qu'en effet, par protection et puis parce que personne ne voulait se mêler à eux, ils se mariaient entre eux. Mais...
Moi, j'ai presque l'impression aussi qu'il nous parle d'un travail de résilience sur le plan historique. Transformer une catastrophe en renaissance, en faire quelque chose pour ne pas mourir, pour se sauver, notamment à travers les arts, la culture, la liberté d'imaginer.
Bien sûr, bien sûr. Et ça a donné une architecture phénoménale. Le baroque, le churrigueresco mexicain, les églises. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle Celaya, il y a 356 églises. C'est merveilleux, quoi. Ça a donné un art, les Indiens, tout l'artisanat ancestral, toute cette manière d'appréhender le monde, leur Dieu, c'est immense, enfin.
Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui me paraît complètement aberrant. Pour aller à votre rencontre, mes souvenirs de petits garçons sont revenus quand on me parlait du Mexique à l'école, quand on me parlait de l'Amérique, de Christophe Colomb et puis de Cortés, peut-être, quoique même pas. On nous montrait toujours les choses comme si les Européens avaient découvert une terre vierge. Et cette terre est si riche, cette culture si brillante.
Oui.
Ça me paraît étonnant que dans les livres scolaires, encore aujourd'hui, ça n'occupe presque rien.
Mais je sais, c'est incroyable. C'est pas une forme de révisionnisme, parce que c'est plutôt les manuels scolaires essayent de minimiser les choses et de circonscrire et de se dire que la civilisation européenne et les Espagnols notamment, avec leur catholicisme, ont conquis des terres vierges. Mais il y avait des civilisations étonnantes. Mais évidemment, des civilisations qui peuvent nous paraître horrifiantes, parce qu'il y avait des sacrifices humains quotidiens, que les pyramides ruisselaient de sang, et qu'il y avait toute une symbolique, toute une architecture de société extraordinairement élaborée, mais qui évidemment pouvait effrayer.
J'aimerais que nous terminions cette partie Ariel Dombasle par, je crois que vous aimez bien Stefan Zweig. Je ne sais pas si vous connaissez Brûlant secret, qui est un roman, comment pourrais-je dire, l'hypocrisie, le manège hypocrite des adultes vu par les yeux d'un enfant. C'est très court. J'aimerais vous entendre, si vous le voulez bien, sur ces quelques mots, ces quelques vers.
Ô enfance étroite prison, que de fois j'ai pleuré derrière tes barreaux en voyant passer, tout pailleté d'azur et d'or, l'oiseau inconnu de mes rêves. Ô nuit d'impatience où je me déchirais les mains au verrou de ma géole, quand je sentais bouillonner dans mon sang la violence de désirs précoces, jusqu'au jour où, brisant mes fers, je trouvais l'espace libre devant moi.
Merci, Ariel Dombasle.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Philippe Bresson avec Ariel Dombasle. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer, prise de son Raymond Albouy. À voix nue, ce podcast et se réécoute sur franceculture.fr.